Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malades.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle...
Les tatouages.
Vous allez maintenant entendre leur dernière émission.
On avait dit sérieux, les filles,
là.
Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs, bonjour aux auditrices et bienvenue à l'émission numéro 303 des Entonnoirs. Alors j'aurai le plaisir de présenter l'émission avec Florent. Bonjour Florent.
Bonjour à toi, bonjour à tous.
Alors on va démarrer par une chronique foot justement de Florent et on va parler champion ou pas. On se demande de qui on parle.
Oui, champion des pays européens.
D'accord.
Ensuite, nous allons enchaîner avec la musique habituelle, musique de Margot de Melbamour, dont le titre est Don't Go Away.
Ensuite, la parenthèse de Roger Lucien sur l'Amérique précolombienne.
Ensuite, nous allons passer à la fourmi des spectacles de Nathalie.
Le poème de Bruno, Port-Royal.
Oui. Ensuite, nous allons écouter un morceau de funk, Windjammer de Henri.
Ensuite, j'aurai le plaisir de vous faire une chronique série sur The Walking Dead.
Ensuite, viendra la pensée de la semaine, encore une fois, de Nathalie, mais cette fois-ci sur la responsabilité.
Puis Bruno va nous parler de Spotify.
Il y a un logiciel. Ensuite, la chronique de Johan sur l'expérience personnelle.
La météo de Malika. Et enfin,
la chanson de Claude Nougaro, Nouga York, de Bruno.
Alors c'est parti, on passe tout de suite à la chronique foot de Florent.
Alors voilà, chronique foot de Florent qui va nous faire un tour d'Europe des championnats de football nationaux. Et on commence par l'Espagne.
Alors en Espagne, si le FC Barcelone s'impose à Madrid, le Barcelone sera champion d'Espagne. Il suffit que le FC Barcelone batte cette équipe-là pour être sûr d'être champion. Voilà, devant le Real qui est déjà qualifié pour la Ligue des Champions et assuré de finir deuxième derrière le Barça.
Alors maintenant, les Pays-Bas.
Alors, l'Ajax d'Amsterdam a été sacré champion ce week-end en s'imposant 5-0 face à Willem II. Donc Ajax champion. Voilà.
L'Italie.
Alors la Juve du Juventus de Turin s'est imposée à domicile face à Palerme 1-0 et a remporté un nouveau Scudetto. Donc champion d'Italie, la Juventus de Turin.
Le championnat de France.
Alors, si Paris s'impose à Lyon et que dans le même temps Marseille ne bat pas Toulouse, Paris est champion. À moins d'une catastrophe, mais Paris sera champion quand même. Et Marseille a une forte chance de finir deuxième.
L'ex-URSS, la Russie.
La Russie, alors. Le titre de champion va se jouer entre le CSKA Moscou, qui est en tête pour le moment, ou bien le Zénith Saint-Pétersbourg, qui est deuxième, à quelques points, à quelques longueurs du CSKA Moscou.
Le Portugal.
Alors le titre va. Il y a un point de différence entre le FC Porto et le Benfica de Lisbonne. Donc pour l'instant, on ne peut pas savoir quoi. C'est très très serré. Jusqu'au bout, j'imagine. Le suspense est entier.
L'Angleterre.
En Angleterre, grâce à un triplé de, me semble-t-il, Van Persie, le Manchester United est champion d'Angleterre à nouveau.
La Turquie.
En Turquie, Galatasaray est champion actuellement à 10 points d'avance sur le Fenerbahçe. Donc Galatasaray est champion de Turquie. Et pour finir, l'Allemagne.
Le sommet du foot européen, l'Allemagne.
Oui, l'Allemagne qui a fait un match nul avec une équipe bis contre le Borussia Dortmund. C'était accessoire puisque l'Allemagne était déjà champion. Ça avait déjà gagné le match pour devenir champion.
Le
Bayern plutôt, est devenu champion il y a de ça 2 semaines. Donc voilà, Bayern champion, bravo.
Et on peut féliciter peut-être pour finir le fait que ce soit 2 clubs allemands qui soient en finale de la Ligue des Champions.
C'est une première, il y a déjà eu des clubs espagnols, voilà, mais là 2 clubs allemands, c'est un, c'est un scoop en fait.
Et un pronostic rapide.
Bayern 3. Hein.
Ok. Voilà, 3, c'est bon. Voilà. On a fini.
Merci.
On enchaîne avec la musique de Margot.
Oui, donc nous allons écouter un morceau funk. Hein. Donc c'est Melba Moore, qui, donc c'est Don't Go Away. C'est un morceau funk, soul, que Henri a rapporté. Voilà, on écoute.
Merci pour ce morceau sympatoche. Alors maintenant, nous allons parler un peu d'histoire avec Roger Lucien, puisqu'il va nous parler de sa rubrique parenthèse. À toi, c'est à toi, Roger Lucien.
La parenthèse du jour. Foot avec Roger Lucien.
Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui après deux séances d'absence. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous lire quelques extraits d'un livre d'un illustre intellectuel, aujourd'hui disparu. Le livre intitulé « Ils y étaient avant Christophe Colomb ». Donc c'est un livre qui est paru en américain, c'est-à-dire aux États-Unis, en 1976 pour la première fois. Et comme il était fort intéressant, il a été traduit en français en 1981 aux éditions Flammarion. Mais le livre, fort intéressant, comme je viens de le dire, est parti comme des petits pains, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de mal à mettre la main dessus. Heureusement qu'aujourd'hui nous avons Internet, et par le biais d'Internet, j'ai réussi à me le procurer il y a à peu près un mois. Donc je vais vous lire quelques extraits de cet ouvrage. Donc en fait, il parle de l'Amérique précolombienne avec les expéditions de marins africains aux Amériques avant Christophe Colomb. La découverte ultérieure du continent plaça le Brésil à l'est de la ligne, c'est-à-dire dans la zone d'influence portugaise. Cette région d'Amérique du Sud est balayée par le courant nord équatorial qui rejoint le courant des Canaries au large des côtes de la Sénégambie. Ce courant entraîne les navires pris dans sa dérive vers les côtes du Nouveau Monde avec l'irrésistible force d'un champ magnétique. Le capitaine portugais Alvarez Cabral, entraîné par une tempête loin des côtes de l'Afrique occidentale en 1500, fut pris dans ce courant et, impuissant, rejeté rapidement sur la terre du Brésil. Oui, à l'extrait suivant, pardon. Aujourd'hui, nous savons, sans doute possible grâce aux méthodes modernes de datation, que certaines têtes négroïdes en pierre trouvées en territoire olmèque et ailleurs au Mexique ou en Amérique centrale remontent à 800 et 700 avant Jésus-Christ. Il faut de toute évidence réécrire l'histoire de l'Amérique en tenant compte de ces données archéologiques. Je lis un troisième extrait. Privés de caméras, les Américains de l'histoire et de la proto-histoire tentèrent d'éterniser dans leurs figures réalistes en argile les silhouettes typiques des générations successives. Les Africains apparaissent à toutes les grandes époques. À l'époque de la culture olmèque, vers 800 avant Jésus-Christ, dans les monolithes sculptés, dans le Mexique médiéval des Mayas, sur leurs figures de terre cuite et aussi sur leurs pectoraux d'or et sur les pipes jusqu'à la période post-classique. Et enfin, je lis le tout dernier extrait. C'est exactement le type d'Africain qui parvint là en 1310 avec la flotte expéditionnaire d'Abou Bakari II du Mali. Ces hommes produisirent une impression visuelle très forte sur les Mixtecs, les derniers des grands potiers précolombiens. Et cette figure est l'une de leurs plus belles œuvres. Découverte à Oaxaca, au Mexique, elle est d'un réalisme frappant. Aucun détail n'est vague, grossier ou inexact. Aucun hasard artistique ne pourrait expliquer l'incontestable négritude des traits, les lèvres éclatantes et charnues, le grain sombre de la peau, le prognathisme du visage, les larges narines, le nez épaté et jusqu'aux boucles d'oreilles de cérémonie et aux bonnets de coton observés par Cadamosto chez les marins du Gambie. L'artiste américain a saisi habilement le visage africain. La tradition de la cour du Mali ainsi que des documents du Caire parlent d'un roi africain, Abou Bakari, deuxième du nom, qui s'embarqua sur l'Atlantique en 1311. Il réquisitionna une flotte de gros bateaux qui furent bien approvisionnés en eau et en nourriture et partit de la côte de Sénégambie, limite ouest de l'Empire d'Afrique occidentale, en suivant le courant des Canaries, fleuve au milieu de la mer, comme le décrit le capitaine d'une expédition antérieure. Donc je reviens à cette appellation fleuve au milieu de la mer. En fait, c'est un courant marin qu'on appelle fleuve au milieu de la mer, qui entraîne les bateaux, je vais dire rapidement, de la côte ouest africaine située au large de la Sénégambie vers les côtes américaines au large du Brésil. Et donc, si bien que les navires, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, ce voyage relèverait peut-être du miracle, mais en fait, ce n'est pas du tout un miracle, puisque le courant traîne les bateaux. Et donc, pris dans ce courant, les bateaux parviennent rapidement, plus ou moins rapidement, sans avarie à destination. Et je voulais ajouter que, selon moi, l'on peut citer deux formes d'histoire. L'une qui est vérité, que l'on fait passer pour mensonge, et l'une qui est mensonge, que l'on fait passer pour vérité. L'exemple flagrant est celui de Christophe Colomb, qui aurait, paraît-il, été le premier à découvrir l'Amérique. Alors qu'avec ce livre, on voit bien que ce n'est pas Christophe Colomb. Donc, par rapport à ça, je ne sais pas si des personnes découvrent cette histoire et si certaines parmi elles souhaitent réagir autour de cette table.
Donc, tu dis, la vérité, c'est un mensonge, la vérité, mais comment on fait pour un moment se fixer et trouver la vérité, justement, et être dans le réel?
Mais je pense qu'avec un livre comme ça, cet illustre, c'était un universitaire, un grand universitaire, Ivan Van Sertima. Le livre est paru, comme je l'ai dit, en 1976 pour la première fois aux États-Unis. Donc on est en 2013, vous faites le compte, ça fait 37 ans. Et la version française est parue en 1981, vous faites le compte, ça fait 32 ans. Donc je pense que depuis ce temps, il y aurait certainement des personnes, des thèses, qui auraient, si elles existaient, elles auraient été à l'encontre de cet universitaire. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas jusqu'à aujourd'hui.
Théoriquement, Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Mais est-ce que t'as des dates précises sur les pays d'Afrique qui ont navigué jusqu'aux Amériques ou pas? Est-ce que t'as
en fait, ces Africains, ces marins africains étaient originaires de l'Empire du Mali. C'était un empire qui date de très longtemps, bien avant la période coloniale. Et en fait, c'est un empire qui est né avec l'effondrement de l'Égypte pharaonique. Lorsque l'Égypte pharaonique s'effondre, la chute des pharaons, il y a un exode massif des populations africaines vers le reste du continent. Et c'est comme ça que se constituent d'autres royaumes sur le continent.
La Sénégambie, ça n'existe plus aussi. La Sénégambie, ça n'existe plus, non?
La Sénégambie, c'est l'union du Sénégal et de la Gambie, tout simplement. C'est deux États qu'on appelle
d'accord,
Sénégambie.
D'accord, merci.
Mais selon toi, pourquoi on nous vend une vérité qui est mensongère?
Je pense que c'est au nom de l'impérialiste. Christophe Colomb appartenait à une nation qui a colonisé. Je crois que Christophe Colomb a travaillé, je crois, avec le roi du Portugal à l'époque. Du moins, il était à son service. Et donc, c'était une période impérialiste où l'Europe voulait influencer le monde entier, les régions qu'elle colonisait. Et elle imposait une histoire qui n'était pas forcément vraie.
Une rectification, c'est pas pour le roi de Portugal, mais pour la couronne d'Espagne que Christophe Colomb travaillait.
Ah, d'accord. Merci.
Voilà, merci bien. On va maintenant écouter Nathalie pour sa fourmi des spectacles.
Concert, théâtre, comédie, ouf, détente, explore, musique, spectacle, théâtre, humour, comédie, animation, loisir, divertissement, spectacle, humour, comédie, loisir, concert, la fourmi des spectacles.
Chères auditrices et chers auditeurs, bien le bonjour et merci à Valenciennes d'être ici présent. Voilà, donc cette semaine je vais vous parler à la fois d'un concert et d'une pièce de théâtre. Donc voilà, un concert à la Louvière à Lille. Donc ce concert s'appelle Omni. Musique acoustique ou électronique, Omni a choisi de ne pas choisir et fait le pari de la cohabitation des univers sonores. Musique actuelle, d'ici, d'ailleurs ou d'avant, ces ovnis musicales touchent à tous les styles et mêlent sans complexe pour en fait un tout cohérent, positif et entraînant. Et c'est le vendredi 10 mai à 20h au Café des Arts, 10 places communales et l'entrée est gratuite. Donc un bon petit concert sympathique. Donc j'enchaîne là avec une pièce de théâtre qui est, à mon avis, qui peut absolument vous plaire. C'est un psychologue qui reçoit des patients tous plus déjantés les uns que les autres. Ce qui tombe bien, pour le psy en question, n'est pas plus sérieux. Cette succession de patients n'est en fait qu'un prétexte à délire grandeur nature. N'hésitez pas d'aller voir spectacle et passer un bon moment avec des acteurs plus vrais que nature. Donc c'est vendredi prochain, vous pouvez consulter donc pour la réservation sur le site http://www.comediesolferino.com et le prix est unique au tarif de 21 euros. Bye bye, à la semaine prochaine.
Merci, qu'est-ce qu'on fait sans toi? Donc voilà, maintenant viendra le poème de Bruno sur le port royal. Bruno, à toi.
Oui, port royal, c'était une abbaye, c'est dans le Yvelines. C'était une abbaye construite au Moyen Âge qui a été délaissée et reprise au XVIe et XVIIe siècle, dans laquelle, comment dire, Pascal, le penseur philosophe Pascal et mathématicien Pascal a été. Et c'est aussi il y a aussi des amis, c'est catho, quoi. Donc, comme j'ai des comptes à régler avec le catholicisme et les nazis, bon, et notamment l'un d'entre eux, Jean-Marie Le Pen, j'ai écrit Port-Royal. Au moment où il débarque, pour prendre des couleurs à Roubaix, on aurait aperçu des escars près de la mairie, qui, pour répondre à leur puissance, à leur pouvoir, fait croire qu'il envoie rien que symboliquement des poules là-haut, mais surtout pas plus loin que Mars. Et comme Charlie, ce vieux poète hippie, est au fond du trou à Port-Royal, surprenant soit pour Dieu, soit pour Alien, ça me fait dire qu'il règne dans mon pays un drôle de climat, et je n'aime vraiment pas ça. Alors tout de suite, je réalise une OPA sur le FN et son vieux chef, Jean-Marie Le Pen, me positionnant à Port-Royal, où je conjugue le saucisson pur porc à toutes les déclinaisons, les miennes y venant, chacune à sa mode, dans un impératif au charme combattant, dans le but avoué d'emplette pour la révolution esthète. Mais la France étant coupée du reste du monde par des robots de la foi, y est appliquée la formule sans âme, autant suspend ton vol, et vous, hors propice, suspendez votre cours. Face à cet inhumain, je rétorque calme et serein, vous qui pensez avoir la force mâle, avec le saucisson pur porc, votre sexe, c'est l'inertie mortifère qui pourrit sur place. Parole de Raoul Darroussac, qui a court-circuité à Jean-Marie Le Pen, il y a bientôt 2 ans de cela, aidé par la griffe d'un film élaboré à Oslo, où bizarrement, un facho tout seul en fait trop, et qui lance la figure de vieux nazi rétro. Pourquoi touchais-tu ta bite à cette époque-là, lorsque tu étais filmé à Strasbourg au Parlement européen, pour répondre aux attaques justes de Daniel Cohn-Bendit, quand, comme toujours, tu justifies le crime, surtout au nom de ta bite de nazi?
Merci Bruno.
Merci Bruno.
Waouh.
C'est bien que t'as pas loupé Breivik. Hein.
Fin elle est trash.
C'est chaud, hein. C'est
bien que
la fin elle est trash.
Ben oui, mais les bites de nazis, ça existe. Il y a des femmes qui sont violées.
Ça fait plus une réflexion qu'un poème. Hein.
Oui.
On est d'accord.
Bruno, c'est.
Mais une réflexion poétique, quoi, c'est-à-dire que. Voilà. Je me sers de la poésie, quoi, voilà.
Bien, on va passer maintenant à la musique d'Henri. Donc c'est Windjammer et c'est de la funk, Henri. De quoi ça parle?
Un peu de tout. C'est un mélange. On était de Bowie et du funk.
D'accord, merci Henri. On écoute.
Made it easier for me to get.
les entonnoirs.
Bien, merci Henri pour cette musique. Un petit commentaire peut-être?
Ben non, je voulais savoir si ça vous plaisait, parce que il y a que ça. Hein.
C'était bien, Henri.
C'était bien, c'était bien.
C'est sympa, merci.
Merci Henri.
Je crois que c'est à ton tour, Mathieu. La fameuse chronique américaine de cette fois-ci avec Walking Dead, la saga Walking Dead.
Voilà, The Walking Dead. Ouais. Donc, anecdote, potin, actu, voire secret inavouable autour de la série The Walking Dead et son tournage. Alors, The Walking Dead, c'est quoi? Alors, en fait, l'histoire, c'est après une apocalypse ayant transformé la quasi-totalité de la population en zombies, un groupe d'hommes et de femmes mené par l'officier Rick Grimes tente de survivre. Alors, j'ai fait un petit titre et après, je développe le titre. Un lancement mondial. Lors du lancement de la série en octobre 2010, AMC et Fox International Channel, qui distribuent The Walking Dead à l'étranger, ont organisé des marches de zombies dans 26 villes du monde, en commençant par Hong Kong et en terminant par Los Angeles, une opération marketing de grande envergure. Adaptation. The Walking Dead est adapté de la série de comics éponyme de Robert Kirkman, Charlie Adler et Tony Moore. Si les deux premiers interviennent en qualité de producteurs délégués sur l'adaptation télévisée, le show ne suit pas l'intrigue près les événements relatés dans le livre. Il en garde cependant beaucoup, en modifie d'autres et en passe d'autres à la trappe. Ce choix a été opéré à la fois pour surprendre les lecteurs qui regardent la série et pour parfaire le récit ou l'ajuster au mieux pour la télévision, un format qui requiert un autre rythme et une structure narrative différente. Atlanta. La série est tournée essentiellement à Atlanta, dans l'État de Géorgie, et sa campagne alentour. Il s'agit également du lieu principal dans lequel se déroule l'action de The Walking Dead. Comment devenir un parfait zombie? Les figurants choisis pour incarner des zombies dans la série reçoivent une formation avant de tourner afin de s'assurer une uniformité dans leur comportement et leurs gestes. Ah, les incroyables audiences. La série est très rapidement devenue un phénomène d'audience aux États-Unis. Le premier épisode n'a intéressé que 5,3 millions d'Américains, ce qui était tout de même un record pour AMC. Et la moyenne des 6 premiers épisodes s'est élevée à 5,2 millions. Le show passe un cran au-dessus dès la saison 2. Le season premier attire 7,3 millions de téléspectateurs et atteint jusqu'à 9 millions de fans pour le final. La moyenne est alors de 6,9 millions pour l'année. À partir de la saison 3, The Walking Dead enchaîne les records, dépassant allègrement les 10 millions. Le crâne rieur. Dans le pilote, le sang du tout premier marcheur, donc c'est comme ça qu'il qualifie les zombies dans la série, que Rick tue, forme sur son t-shirt un crâne qui sourit. Halloween. Le pilote de la série a été diffusé sur AMC pour le soir d'Halloween le 31 octobre 2010. Une programmation jugée de circonstance avec des zombies qui partagent la vedette avec les acteurs. Compositeur. C'est Bir McCreary, un habitué de la science-fiction qui a composé la musique de la série. Il a travaillé auparavant sur Battlestar Galactica et Terminator, les chroniques de Sarah Connor. Un inventeur. Le personnage d'Edwin Jenner, le médecin du CDC, Center of Disease Control and Prevention, d'Atlanta, que l'on rencontre dans le dernier épisode de la première saison, tient son nom d'Edward Jenner, l'inventeur du vaccin contre la variole en 1790. Zombie interdit. Dans la série, jamais le terme zombie n'est prononcé en version originale. D'autres mots comme le plus populaire The Walker, les marcheurs, sont préférés. Un choix artistique en somme. Voilà, merci de votre écoute.
Je peux rajouter deux petites informations.
Vas-y.
Donc tu dis, il y a les comics, la série, et donc il y a aussi deux jeux vidéo.
Oui.
Ouais, donc
j'en ai pas parlé.
Ouais, mais je peux en parler.
Ouais, vas-y.
Il y a un jeu vidéo, donc c'est The Walking Dead. Je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est un jeu vidéo en 6 épisodes qu'on peut trouver
Survival Instinct.
Ouais, je crois que c'est ça. Donc il est en 6 épisodes, c'est la saison 1. Donc un épisode c'est à peu près 2 heures de jeu, donc c'est un point and click, tu vois, donc avec des QTE pour éviter les zombies et tout. Très bien, il va avoir aussi un autre jeu qui va être un FPS où en fait on incarnera les deux frères là, leur nom m'échappe là, le méchant et celui qui est méchant mais qui devient gentil là. Celui qui se fait attacher là et qui se coupe la main. Comment il s'appelle?
Ah oui, je m'en souviens plus.
En fait, les deux frères, quoi. Il va avoir un deuxième jeu vidéo, ça sera un FPS, donc qui racontera le début de l'infection du point de vue des deux frères, en fait. Donc, avant la série.
D'accord.
Et juste, pour finir, peut-être tu dis qu'il y a eu des marges de zombies, pour le lancement mondial. En fait, je vais te l'apprendre, ça vient de nous, en fait. C'est parce qu'en 2005, quand on était hospitalisé, on a été à la piscine, et ils ont tous cru que c'était une marge de zombies.
D'accord.
Et ils se sont inspirés de ça.
La scène la plus dure, c'est dans le 1, c'est avec la scène du cheval qui se fait dévorer.
Ah, on spoil pas, Florent, on spoil pas. Chut.
Bon,
bah merci.
Je crois, hein, merci Mathieu. Encore, Mathieu.
Merci, Mathieu.
C'est toujours très intéressant ce que tu racontes. Ouais, vas-y.
Peut-être lancer un appel pour des informations sur la série Plus belle la vie, pour une future chronique. On cherche des informations, voilà.
Moi, j'en ai plein.
Je crois que je vais repasser le témoin à Nathalie, puisqu'elle va nous parler de sa fameuse pensée de la semaine sur la responsabilité. Aujourd'hui.
Jingle.
La pensée de la semaine. Chut, chez les entonnoirs.
Chères auditrices et chers auditeurs, chaque semaine je vous parle et je vous dévoile un secret de mes papillons. Nous avons récemment parlé du secret du papillon de l'harmonie, de l'amitié, de l'amour de soi, etc. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un secret de papillon qui s'appelle la responsabilité. Et je dédie cette petite chronique à mon ami Ben. La responsabilité. Accepte et assume ta part de responsabilité pour ne pas culpabiliser l'autre. Personne ne détient le monopole du juste et tous les mérites. Il n'est de sentiment plus déstabilisant et plus frustrant que la culpabilité. Tu ne dois ni la subir et ni l'initier. Attention, car le jeu de rôle pourrait s'inverser. Juste et responsable envers toi, tu le seras alors pour les autres. Est-ce que ça vous parle, Valenciennes?
Ben, t'as pas un petit mot à dire?
Oui.
Bah, Ben, pourquoi pas? Tu peux dire un petit mot, Ben, il n'y a pas de souci.
Je vois pas le rapport entre la responsabilité et la semaine dernière, en fait, c'est ça?
Bah, c'est parce que tu n'as pas très bien compris, message que j'ai voulu faire passer.
Non, c'est pas grave.
Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup parler de ça chaque semaine parce que on évoque des choses, peut-être aussi, pas des rancœurs, parce que je ne tiens rancœur à personne ici, hein, mais des fois, ça remet un petit peu les choses en place, les idées dans la tête des uns et des autres, quoi. Mais c'est tout, c'était purement amical.
Donc tu veux dire que Ben est irresponsable?
Voilà. J'ai parlé de la responsabilité. La responsabilité, c'est tout à chacun, hein. Tout le monde doit être responsable, je pense. D'accord. Et savoir aussi ses limites et plein de choses en fonction de ça.
Moi, j'ai appris. Je fais partie d'un atelier bois et j'ai fait un test avec un moniteur, en fait, il disait que les gens qui déliraient rejetaient beaucoup la faute sur l'autre, tandis que les gens qui sont un peu dépressifs ou divagants prennent pour la faute pour eux.
Je pense que personnellement, oui, je pourrais dire un mot là-dessus, que c'est vrai que j'ai tendance, moi, quand on me fait une reproche ou quelque chose comme ça, à culpabiliser, en fait, à paniquer, parce que on m'a dit ça, donc automatiquement, tout de suite, clash, ça me tombe dessus, et j'ai fait une connerie, puis on culpabilise, on se rend malade, alors que bon, ben, il suffit de mettre les choses au point, c'est tout, quoi.
Très bien, à chaque fois.
Oui, voilà, il n'y a rien de grave dans
tout ça. Et non, il n'y a jamais rien de grave dans tout ça. Mais ça fait du bien d'en parler. Hein, Blandine?
Et là, oui. Et la responsabilité,
la responsabilité.
Ça ne parle à personne. Ça m'étonne.
C'est ouais, moi aussi, ça me, à part Margot.
Si, la responsabilité, surtout quand on a un enfant, moi je peux en parler, donc.
Pourquoi, bah, pourquoi pas, enfant, c'est ça, enfin, on peut
dire, un enfant, on est toujours responsable, on est, moi je suis mère jusqu'à ma mort, quoi, comme on dit, hein. J'ai quand même un fils de 24 ans, mais il est toujours dans mes pattes, c'est pas grave, mais.
Même s'il était plus là.
Même s'il était plus là, on est toujours responsable de sa propre chair et, voilà, mm-hmm. quoi. C'est ça la responsabilité.
C'est une sorte, une forme de responsabilité.
Tard, je vois que Tard est étonnamment loin de la table. Loin de la table, donc,
Il écoute aujourd'hui. Bon, là.
Donc tu veux Tard, allez, à la prochaine. Non.
Donc, bah, chers auditrices et chers auditeurs, oula. Et ben, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.
Voilà, merci. Allez, on va passer à la chronique de Johan.
Jingle. Et ça vous dérange pas, ça fait 5 ans que je viens, j'ai toujours pas de jingle. Ça vous dérange pas. Je sais pas, il y a personne qui peut faire.
Vas-y,
un
mon brave Johan.
On écoute Johan.
À toi Johan.
Non, bon là, bon, c'est une chronique. Donc Florent a dit que c'était pour partager mon expérience personnelle. Donc c'est pas facile comme chronique, là je suis un peu stressé d'en parler. Donc voilà, c'est par rapport à la maladie psychiatrique. Donc on est tous dans le même cas ici. Et donc moi j'aimerais bien partager avec vous mon expérience personnelle. Donc j'ai été diagnostiqué schizophrène en 2005. Enfin pas tout de suite en 2005, d'abord sur le premier, je me souviens du premier rapport du médecin qui disait peut-être qu'il va être schizophrène, mais bon, quand je suis revenu 3 semaines après complètement délirant, là il était sûr. Donc voilà, donc un schizophrène, donc bon, vous connaissez un peu tout ça. Donc le traitement pour la schizophrénie, c'est les neuroleptiques première génération il y a 10 ans, et depuis maintenant 10 ans il y a des neuroleptiques de deuxième génération qu'on appelle des neuroleptiques atypiques. Et en fait, moi, un truc que j'ai mal vécu dans ma maladie, en fait, c'est le fait que beaucoup de soignants m'ont dit que ce serait sûrement un traitement à vie. Donc là dernièrement, il y a un nouveau traitement qui est venu sur le marché. En fait, c'est donc neuroleptique atypique en injection, mais nouveau parce qu'en fait, avant les injections, c'était 14 jours et là, c'est pour 1 mois. Et en fait, je voulais partager cette expérience avec vous parce que moi, ça fait maintenant 2 mois à peu près que je suis en rupture de traitement. C'est une volonté de ma part, en fait, d'arrêter mon traitement. Alors tous les soignants m'ont dit que c'était peut-être pas une bonne idée, tout ça, mais j'ai quand même pu avoir un accord avec mon médecin pour tester l'arrêt du traitement. Donc si vous êtes schizophrène ou si vous connaissez des schizophrènes, vous savez ce que ça veut dire, arrêter le traitement, c'est quand même très risqué. Et moi, tout ce que j'ai pu apprendre sur les traitements, tout ça, ça m'a donné envie de réévaluer le risque, en fait, de ma pathologie. Parce que du coup, comme il y a un nouveau traitement et qu'on m'a proposé de passer au nouveau traitement, ben moi j'ai proposé de faire un petit break donc dans le traitement pour voir le risque, en fait. Donc c'est difficile d'en parler avec ses proches, le fait d'arrêter son traitement, parce que les proches, en fait, restent assez marqués par les premiers épisodes délirants. Mais grâce à mon médecin qui me couvre entre guillemets, qui m'a permis de faire valoir un des articles de la charte des hospitalisations, c'est-à-dire qu'on peut décider quand on a conscience, qu'on peut décider de son traitement. Donc là, je réévalue le risque, en fait. Et ce qui m'a poussé à arrêter ce traitement pour réévaluer le risque, c'est parce qu'on me dit oui, en fait, c'est des traitements lourds, en fait. Par exemple, les neuroleptiques atypiques. Deuxième génération, il y a un effet secondaire dont on parle pas souvent, mais qui existe, c'est l'effet de, comment on appelle ça, le syndrome extrapyramidal. Et j'ai vu qu'en fait, c'est dans peu de cas ça se produit, mais dans les 10% des cas où ça se produit, il peut y avoir une issue fatale, en fait. Et il y a des soignants qui m'ont dit une fois, ouais, mais tu sais, Johan, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Alors je sais que je perds mes cheveux, mais je suis pas encore un œuf. Donc voilà, donc j'ai décidé d'arrêter mon traitement et je trouve, je fais des premières observations sur comment je me sens, tout ça. Et voilà, donc je voulais partager ça avec vous et on avait prévu peut-être des petites relances au niveau de l'équipe secondes. Ici.
Juste après, je vous laisse réagir. Et justement, comment tu te sens?
C'est difficile parce qu'en fait, quand c'est pas la première fois que j'arrête, hein, donc je savais un peu ce qui m'attendait.
Oui.
En fait, c'est pour donner une image. En fait, j'enlève la camisole chimique, clairement. Donc même si pareil que les camisoles chimiques, elles existent pas ou elles sont très légères par rapport à avant, je sais que j'ai de la chance. Merci tout le monde. Mais je sens quand même que mon cerveau, enfin, il se réactive sur quelques points, par exemple sur le fait de faire un peu d'humour ou. Donc ça c'est un côté positif, mais par exemple sur le fait de j'ai l'impression que mon cerveau il s'est reconnecté à mes sensations, comme les sensations d'angoisse, tout ça. Je sais que les 6 premières semaines je sentais beaucoup plus d'angoisse, mais je me suis dit que c'est comme une drogue que t'arrêtes du jour au lendemain, peut-être que t'as de l'angoisse, donc je me suis dit que ça allait s'estomper. Donc c'est à ce niveau là que...
Au jour d'aujourd'hui il y a moins d'angoisse malgré la continuité de l'arrêt de traitement.
Ouais, il y a un peu moins d'angoisse, mais justement, j'essaye de lutter contre les angoisses de façon mentale, parce que les angoisses, des fois, c'est des peurs irrationnelles. Donc, j'essaye de raisonner à ce niveau-là. Et, ouais, mais je continue quand même à prendre un traitement plus léger, à base d'anxiolytique, quand j'en ai vraiment besoin. Peut-être tous les 5 jours, j'ai besoin de prendre un petit anxiolytique, histoire de redescendre, quoi, ouais. D'un état d'angoisse et tout.
Bruno.
Un peu d'humour, mais qui est bien choisi, dans le sens, d'après ce que tu dis, on peut pas dire que la pilule est dure à avaler, t'as plus de pilule. Bon, vraiment. Deuxièmement, j'ai un copain qui a des problèmes psychologiques. Il aimait Fernand Reynaud, un grand humoriste français, avec son sketch la bicarbonate de soude. Il en a pris et maintenant il y a de meilleurs rapports avec les gens parce que bicarbonate de soude. Parce qu'il soude les liens. Bon, voilà, exactement. Et troisièmement, je connais des fous en Hongrie. Ils ont pris du miel, le miel de Hongrie, comme il est tellement bon que maintenant, ils cartonnent les mecs. Voilà, au miel. J'aurais dit, faites gaffe au diabète. Mais oui, parce que ils m'ont dit notre folie, elle est pas chronique, alors que le diabète est chronique. Mais si un jour le diabète n'était plus chronique et que tout le monde pourrait prendre du miel de Hongrie, pourquoi pas. Voilà, c'est à espérer aux fous que nous sommes. Voilà.
Bon, Jessica, tu voulais intervenir?
Moi, je voulais dire que, bon, je vais un petit peu parler de mon cas. Je ne vais pas aller dans le sens de ce que tu dis, Johan, parce que moi, je pense que mon traitement, je vais le prendre à vie. L'autre jour, j'ai interrogé mon psychiatre sur les effets que peuvent avoir le traitement, les effets secondaires, les conséquences que peuvent avoir mon traitement sur ma santé plus tard. D'après ce que m'a dit mon médecin, d'après ce que j'ai retenu, il n'y aurait pas de conséquences graves parce que le traitement est léger. Je ne prends que du 100 mg, je crois, oui, du 100 mg. Et puis, ça n'aura pas de conséquences d'effets secondaires sur ma santé, quoi. Mais par contre, j'aimerais signaler que j'avais arrêté mon traitement un moment, il y a peut-être 2-3 ans, peut-être même avant, parce que j'avais des effets secondaires gênants et ça m'embêtait beaucoup. J'avais arrêté. Et après, je me suis rendu compte que je faisais erreur, et puis donc j'ai repris le traitement. Voilà.
Moi, en fait, je pense que les gens qui sont juste dépressifs, bon, ça se guérit, ça soigne, ça se guérit. Mais je veux dire, c'est un peu une chance de.
Je suis pas d'accord avec toi. Hein.
Non, mais c'est une façon de dire les choses, parce que par exemple, quand on est schizophrène, bon, ça peut devenir linéaire ou stagné ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que en tout cas, prenez votre traitement parce que c'est un peu indispensable, quoi. C'est un passage obligé et puis vous finirez par aller mieux, quoi. Mais bon, faut vous battre, en tout cas.
Alors Margot, pendant que j'en parlais, tu disais que c'est pas une bonne idée.
Non. Moi, j'ai commencé par simplement la dépression et moi, après, ça s'accumulait par différentes maladies. J'ai provoqué différentes maladies. Donc, ce que tu dis là, la dépression, ça ne guérit pas du tout. La dépression, on l'a toujours en nous, hein. Moi, je l'ai depuis déjà des années. Donc, moi, je suis pas d'accord au niveau de là. J'ai fait tous les traitements pas possibles, anxiolytiques, antidépresseurs. Pour moi, personnellement, Non, je pense que Nathalie me rejoint.
Oui, je voulais juste dire un petit mot justement là-dessus. Bon, moi je suis dépressive. C'est sûr que la dépression, je pense qu'on l'a tout le temps. Même si on passe les années, voire des mois, des années, on sait qu'elle va plus ou moins revenir à tel moment, dû à des faits, des contrariétés, etc., des moments clés qui font que le cerveau a enregistré. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mieux la gérer, parce qu'on sait qu'elle va arriver, qu'elle va tomber, et que là, c'est là qu'on peut la gérer et passer outre. Mais ça peut donner beaucoup de soi-même, parce que c'est important, c'est très très dur à gérer, voilà. Et il faut des médicaments, bien sûr.
Bon, après moi mon trouble, hein, c'est plus officiellement ça s'appelle la psychose, hein. C'est d'accord. Pas dépressif mais psychotique. Et ce que je dis, bien sûr, ça n'engage que moi, hein. C'est moi qui arrête le traitement et c'est moi qui en subirai les conséquences s'il doit y avoir des conséquences. D'accord, j'incite personne. Enfin, je veux pousser personne à arrêter son traitement ou pas. Moi, je décide de le faire pour moi, parce que mon médecin est d'accord. Si jamais ça va pas, je peux retourner direct à l'hôpital, quoi. Il y a pas de souci. Mais je pousse chacun à décider pour lui-même s'il a, il peut
tout à
avoir,
fait, tout à fait.
S'il peut réfléchir encore, s'il n'est pas justement dans la psychose. Et je voudrais juste terminer rapidement, puisque Ben a dit qu'on devait passer à la suite. Le truc, c'est ce qui est difficile à vivre quand tu tombes malade. Bon, c'est quand on te dit que tu auras un traitement à vie, que tu commences à faire des recherches sur les traitements et qu'il y a des effets secondaires, tout ça. Moi, le discours des médecins, je l'ai entendu. C'est soit tu prends ton traitement et tout est rose, soit t'arrêtes de prendre ton traitement et tu risques des trucs de fou. Et c'est systématique. On dit qu'il n'y a pas une schizophrénie, il y a des schizophrénies. Mais chaque schizophrène, peu importe sa schizophrénie, dès qu'il arrête son traitement, il va lui arriver les pires choses du monde. Et moi, j'aimerais bien prouver le contraire en arrêtant mon traitement. Et c'est ça qui me dérange, parce que c'est une idéologie dominante, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que c'est des éléments de langage. C'est pour ça que moi aussi, j'ai envie d'arrêter et de réévaluer mon risque, en fait. Voilà.
Au début, il y avait des psychiatres dangereux, quand ils donnaient au début des neuroleptiques, quand le mec était complètement assommé, il disait, comme un légume, il disait, le malade est, comment dire, est stabilisé. Alors qu'il bougeait pas sa chaise. C'est un peu grave, voilà. Et il y a des progrès par rapport à ça. Mais pas pour ça, faut pas oublier que chaque cas est individuel. Voilà.
Alors, juste pour conclure vraiment, alors c'est une décision que j'ai prise, donc là vous êtes au courant. Mais ce qui est difficile aussi, c'est vraiment, j'insiste sur le fait des proches, en fait, les gens qui nous ont connus dans les premiers épisodes de Délirant. C'est une démarche que je cache en fait. Là, je vous en parle parce que de toute façon, il y a personne de ma famille qui écoute la radio. Mais c'est quelque chose que je peux pas dire à mes proches, parce que j'ai l'impression que quand tu t'es schizophrène, que t'es identifié comme schizophrène, que ça fait longtemps que tu te soignes, que tu dis que t'arrêtes ton traitement, ou même que tu dis que tu consommes des substances ou quoi, même si tu te sens bien, il va avoir un a priori que les gens, ils vont voir tout le négatif, parce que t'es pas dans le bon comportement. Et je préfère que ce soit caché, le fait d'arrêter le traitement, parce que je sais que si je le dis trop ouvertement, tout de suite, on va voir que les aspects négatifs. Alors que si je vais aller au CMP et dire, bon, je prends bien mon traitement, là, on va faire des petits trucs, parfois insignifiants. On va dire, c'est encourageant, monsieur. C'est ça le problème, quoi. C'est, voilà, ce que j'avais à dire.
Merci, Johan, on t'a entendu.
Alors maintenant, va venir la météo de Malika. Toi, Malika.
Oui, bonjour, auditeurs et auditrices. Voici la météo. Vendredi 10 mai, temps nuageux. Minimal 6 degrés à 17 degrés. Vent modéré et soleil. Samedi 11 mai, peu nuageux, soleil, température entre 5 et 17 degrés, vent modéré. Dimanche 12 mai, ciel voilé, température 5 degrés à 18 degrés, vent faible de nord-ouest.
Merci Malika.
Merci Malika. Merci Malika. Et avant de se dire au revoir, on va passer à la musique de Bruno, Claude Nougaro.
Oui, donc c'est Nougayer que de Claude Nougaro. Voilà, donc on l'écoute. Hein. Merci, chers auditeurs, chers auditrices, de nous avoir écoutés. Au revoir.
Au revoir.
À bientôt. Salut.
Au revoir.
À bientôt.
Bye bye. Merci. We'll be right back.
savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
C'est les entonnoirs parce qu'ils donnent plus fou dans la tête et ça gratte des poux sur ma tête et je viens plus fou, c'est ça les entonnoirs.